Et quoi? Si nous décidons qu'il faut que toutes les choses que nous venons de dire se fassent selon des règlements, et que nous préposions à leur exécution un homme désigné par les suffrages ou par le sort, et si cet homme, sans s'inquiéter des règlements, soit pour quelque bénéfice, soit par quelque complaisance particulière, entreprenait d'agir à l'encontre sans y rien connaître, n'en résulterait-il pas encore un mal plus grave que dans le premier cas? Cela est très vrai. En effet, lorsqu'il y a des lois instituées d'après une longue expérience et que le peuple n'a établi qu'à la persuasion de conseillers habiles et bien informés, quiconque oserait agir contre de telles lois commettrait, ce me semble, 1 000 fautes au lieu d'une, et anéantirait toute pratique des arts bien plus sûrement encore que n'auraient pu faire les règlements. Comment serait-il autrement? Voilà pourquoi il ne reste à ceux qui établissent des lois et des règlements sur quoi que ce soit qu'un second parti à prendre. C'est de ne permettre ni à un seul homme ni à la multitude d'entreprendre rien qui y soit contraire. Très bien. Mais ne seraient-elles pas des imitations de la vraie nature de chaque chose, les lois que les hommes instruits auraient rédigées de leur mieux? Apparemment. Et d'un autre côté, nous avons dit, si nous nous en souvenons bien, que le politique instruit, le véritable politique, agirait souvent, pour remplir ses fonctions, d'après son art seul, sans s'inquiéter des règlements, quand il croirait quelque chose meilleur que ce qu'il avait précédemment établi et adressé à des hommes qui sont loin de lui. Oui, nous l'avons dit, mais un homme seul, quel qu'il soit, ou tout un peuple qui, se trouvant avoir des lois établies, entreprendrait de faire contre ces lois telle ou telle chose qu'il leur croirait préférable, n'agirait-il pas autant qu'il leur serait possible comme ce vrai politique? Assurément. Si ce sont des ignorants qui agissent ainsi, ils tenteront sans doute d'imiter la vérité, mais ils y réussiront fort mal. Si ce sont des hommes habiles, alors ce n'est plus une imitation, c'est la vérité elle-même. Tout à fait, mais nous sommes tombés d'accord que jamais une multitude n'est capable de posséder un art quel qu'il soit. Oui, nous en sommes convenus. Si donc il existe une science royale, la foule des riches, ni le peuple tout entier, ne pourront jamais atteindre à cette science de la politique. Jamais. Il faut donc, à ce qu'il semble, que de pareils gouvernements, s'ils veulent imiter avec succès, autant qu'il est en eux, le gouvernement parfait qui est celui d'un seul, gouvernant d'après les principes de l'art, se garde bien, une fois qu'il y a des lois établies, de jamais rien faire contre ce qui est écrit et contre les coutumes des ancêtres. Tu as raison. Quand ce sont les riches qui gouvernent d'après ce modèle, nous nommons aristocratie un pareil gouvernement. Et lorsqu'ils ne s'inquiètent pas des lois, nous disons que c'est une oligarchie. Il y a apparence, et cependant, quand c'est un seul qui commande suivant des lois en imitant le savant politique, nous l'appelons roi, sans distinguer par des noms différents celui qui règne par la science et celui qui se règle par l'opinion consignée dans des lois. Oui, c'est bien ce que nous faisons. Ainsi, si celui qui gouverne seul a véritablement la science, il n'en sera pas moins appelé de ce même nom de roi et non pas d'aucun autre. D'où il résulte que les 5 noms des gouvernements dont il a été question ne seront plus qu'un seul. Cela est vraisemblable. Mais quoi? Si le monarque n'agit ni suivant les lois, ni suivant les coutumes, mais que, comme celui qui gouverne par la science, il se donne l'air de préférer toujours le meilleur parti, sans avoir égard au règlement, et que l'ignorance et la passion président à cette imitation, ne faut-il pas nommer cet homme un tyran? Sans contredit. Nous avons donc, disons-nous, le tyran, le roi, l'oligarchie, l'aristocratie et la démocratie. Les hommes, en effet, répugnent à cette monarchie d'un seul. Ils désespèrent de rencontrer jamais personne qui soit digne d'un tel empire, qui veuille et qui puisse à la fois gouverner avec science et vertu, et dispenser également à tous ce qui est juste et ce qui est bien. Ils croient plutôt qu'il leur fera du mal, qu'il les tuera ou maltraitera tous ceux de nous qu'il lui plaira. Car s'il se trouvait un personnage tel que nous disons, on serait heureux de vivre sous la seule forme de gouvernement que la raison avoue, parfaitement administrée. Évidemment, mais dans l'ordre présent des choses, puisqu'on ne voit pas naître dans les États ainsi que dans les essaims d'abeilles de rois tels que nous venons de les dépeindre, qui dès l'abord se distinguent entre tous par les qualités du corps et de l'esprit, il ne reste, ce semble, qu'à se réunir pour instituer des lois en suivant les traces du vrai gouvernement. Il n'y a pas d'autre parti à prendre. Pouvons-nous donc nous étonner, Socrate, combien de maux arrivent et combien arriveront encore dans de pareils gouvernements? Fondé sur ce principe qu'en toute chose on suivra la loi écrite ou la coutume et non pas la science, quand il est évident qu'en toute autre affaire ce principe serait une cause de ruine? Ou ne devons-nous pas plutôt admirer combien un État est une chose solide de sa nature? Car il y a un temps infini que les États souffrent de pareils maux, et pourtant il en est quelques-uns qui demeurent stables et qui ne sont pas renversés. Il en est aussi beaucoup qui, comme des barques submergées, périssent ou ont péri ou périront par la faute de leurs conducteurs et de leurs pilotes, lesquels n'ont un partage sur les choses les plus grandes que la plus grande ignorance, et sans savoir absolument rien en politique, s'imaginent que de toutes les sciences, c'est celle qu'ils possèdent le mieux. Cela est très vrai. Mais parmi ces gouvernements que la raison désavoue et sous lesquels il est difficile de vivre, quel est celui où la vie est le moins pénible et quel est le plus pesant? Faut-il nous occuper de cette question, quoiqu'elle soit étrangère au sujet que nous nous sommes proposé tout à l'heure? Cependant, c'est là peut-être au fond que tendait tout notre discours. Il faut s'en occuper, pourquoi pas? Reconnais donc que parmi les trois espèces de gouvernement, c'est le même qui est à la fois le plus rude et le plus commode. Que dis-tu? Rien d'autre chose, sinon que le gouvernement monarchique, celui du petit nombre et celui de la multitude, sont les trois dont il a été question entre nous au commencement du présent discours. En effet, eh bien, divisons-les chacun en deux, et faisons-en six en plaçant à part, comme le septième, le gouvernement conforme à la raison. Comment? Nous avons dit que de la monarchie naissent la royauté et la tyrannie, du gouvernement du petit nombre l'aristocratie avec son nom d'heureux augure et l'oligarchie. Quant à celui de la multitude, nous ne l'avons nommé que d'un seul nom, démocratie, mais maintenant, il faut aussi le partager en deux. Comment donc et quelle division adopter? La même absolument que pour les autres, lors même que nous n'aurions pas ici de nom pour l'exprimer. Car dans ce gouvernement, aussi bien que dans les autres, il y a une différence entre gouverner selon les lois et gouverner contrairement aux lois. Certainement, quand nous étions à la recherche du gouvernement parfait, cette division était inutile, comme nous l'avons montré précédemment. Mais maintenant que nous l'avons reconnue et que nous avons établi la nécessité des autres gouvernements, nous divisons chacun de ces gouvernements en deux espèces selon le respect ou le mépris des lois. C'est ce qu'il semble d'après cette explication. Or, la monarchie enchaînée dans de sages règlements que nous nommons lois est le meilleur de ces six gouvernements. Mais sans loi, elle en est le plus pesant et le plus difficile à supporter. Il y a grande apparence. Quant au gouvernement du petit nombre, de même que peu est un milieu entre un seul et beaucoup, regardons aussi ce gouvernement comme un milieu entre les deux autres. Pour celui de la multitude, n'y voyons rien que de faible en toute façon, d'incapable d'un grand bien et d'un grand mal, comparativement aux autres, parce que l'autorité y est éparpillée entre mille mains. Aussi, quand les autres gouvernements sont soumis aux lois, il en est le pire, et il en est le meilleur quand ils les violent. S'ils sont tous sans frein, mieux vaut vivre dans une démocratie. Mais s'ils sont bien ordonnés, ce n'est pas dans celui-là qu'il vaut le mieux vivre, mais dans le premier que nous avons nommé, en exceptant toujours le septième. Car il faut le distinguer entre tous les autres, comme un dieu entre les mortels. Les choses semblent être en effet et se passer de la sorte, et il faut faire comme tu le dis.